Alors, ben, les enseignants, de notre côté, ils ont dans leur esprit un élève idéal. Ils ont dans leur esprit un élève idéal pour plusieurs raisons. Parce qu'ils l'ont été eux-mêmes, souvent, ou, bon, ils essaient au moins de le faire croire. Ils ont été de bons élèves, évidemment. Ils n'ont souvent pas été eux-mêmes élèves dans les zones dans lesquelles ils enseignent lorsqu'il s'agit de l'éducation prioritaire. Et il faut dire aussi que non seulement ils ont été des élèves idéaux, mais au cours de leur formation, qui, comme on le sait, sauf à montrer que la nouvelle mastérisation va apporter des changements bouleversants en matière, ils ont été formés essentiellement d'un point de vue académique. Alors, c'est surtout vrai pour le second degré, néanmoins, pour le premier degré, il n'y a pas non plus, je pense, dans les plans et la réalité de la formation, d'efforts particuliers qui permettra à ces enseignants de contextualiser leurs enseignements et de comprendre véritablement de quoi il s'agit pour les élèves en question et le fossé qu'il s'agit de les aider à sauter pour accéder aux règles scolaires. Je reprends une distinction que je trouve bien commode que fait Claude Dubard, qui est ce qu'il appelle l'identité biographique et l'identité relationnelle. Voilà. L'identité biographique, ça marche pour des enseignants parce qu'en général, ils se sont consacrés aux études. Ils ont décidé de faire ce métier pour une grande partie d'entre eux ou pour une grande raison pour chacun, parce qu'ils aimaient la discipline, alors c'est plutôt vrai pour le second degré. Ensuite, parce qu'ils aiment les élèves, on va dire les enseignants de second degré, quelques années après leur début, déplacer un peu le curseur et se rendre compte que les élèves sont une part importante de l'enseignement, ce qui n'est pas forcément acquis au début. Mais il faut bien voir qu'ils ont passé un concours devant des jurys de gens qui sont acquis aux enseignements, qui sont acquis aux disciplines académiques, et qui ne sont pas évalués, ils sont évalués à blanc d'une certaine manière, ils ne sont pas évalués en fonction de leur capacité à prendre la mesure de la nature des élèves, de leur état cognitif, si je puis dire, des bagages qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, et des possibilités de remédiation qu'il faudrait mettre en place. Voilà, donc il y a cette identité biographique, identité pour soi. Moi, je me définis comme un enseignant qui aime sa discipline. Mais le travail met aux prises avec ce que Dubard appelle l'identité relationnelle ou l'identité pour autrui. Et là, non, le grand écart est tout à fait important. Il peut aller jusqu'à une espèce de déchirure, puisque les enseignants obligés de s'adapter à des publics risquent de passer un temps important de leur début de carrière à se dire qu'ils ne font pas ce pour quoi ils ont été préparés, qu'ils ne font pas le métier qu'ils ont souhaité faire, avec les sacrifices qu'il y a avec. C'est toujours pas facile d'être recruté comme enseignant, on aurait pu faire autre chose, on peut avoir des métiers plus lucratifs, etc., surtout dans certaines disciplines, évidemment. Et donc, la souffrance au travail, dont parle ma collègue Françoise Lantôme et d'autres, elle est largement dans ce partage, dans cette déchirure identitaire, entre le prof idéal qu'on voudrait être et qui enseigne à des élèves idéaux et le prof réel qu'on est obligé d'être et qui enseigne à des élèves réels.
Et ça, c'est plutôt une analyse que vous faites qui concerne les enseignants débutants, la première année, les premières années, ou c'est quelque chose qui va...
Je crois qu'on n'a pas trop d'enquête sur des enseignants de milieu de carrière, parce qu'on est évidemment polarisé sur ceux de l'entrée. Et ceux de l'entrée, tout naturellement, ils sont portés à raisonner comme ça, parce qu'ils sont affectés dans les milieux difficiles. Lorsqu'ils réussissent à bonifier leur carrière, on imagine qu'ils vont trouver d'autres publics et que le divorce sera moins intense. Les sociologues américains parlent pour les enseignants de carrière horizontale, comme ils n'ont pas la possibilité... Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, d'ailleurs les enseignants n'en veulent pas en général, pas beaucoup de possibilités de progresser dans la carrière elle-même. Donc le moyen d'améliorer sa carrière, c'est de la bonifier en se déplaçant sur le territoire, pour avoir des publics moins difficiles.
Mais on trouve aussi, alors peut-être plus dans le premier degré, des enseignants chevronnés qui font le choix de rester dans ces zones difficiles. Et peut-être que là, on manque encore d'enquête sur comment ils durent dans le métier, pour reprendre le travail de François.
Il y aura un vrai travail à faire. Y compris d'enseignants qui disent « Je suis heureux d'avoir été affecté dans les zones d'éducation prioritaire parce que là, j'ai appris mon métier comme je ne l'apprendrai aussi bien nulle part ailleurs et d'une certaine manière, qui peut le plus, peut le moins. » Et ça, certains, y compris retrouvés quelques années après, dans la mesure où ils ont traversé cette expérience de façon positive, se réjouissent d'avoir été au contact des difficultés les plus intenses qui soient.
En tout cas, tu parles de re-socialisation professionnelle.
Re-socialisation professionnelle, parce qu'évidemment, c'est la socialisation qui a été la socialisation à l'université, voire à l'IUFM ou à l'ESP. Il va falloir se donner d'autres types de comportements, d'autres règles de métier sur le tas, je dirais, parce que la resocialisation professionnelle, elle ne vient pas nécessairement de la formation officielle. Elle vient de ce qui se diffuse dans le milieu de travail, dont je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance hein, dans l'activité formatrice des enseignants. C'est des activités souvent clandestines hein, qui rentrent en tension avec les formations officielles, et les enseignants sont parfois entre les deux cultures. Une culture développée pour l'IEFM, l'ESPE ou l'inspection, et une forme de culture développée sur ce qu'il y a pour eux la vraie légitimité, c'est-à-dire le terrain. Et pourquoi ça, les légitimités? C'est parce que là sont les gens qui souffrent, et non pas les gens comme moi qui viennent pontifier en racontant des généralités sur l'éducation, et dont on soupçonne qu'ils n'ont jamais fait cours en milieu difficile. Le petit extrait que vous voyez derrière moi a été pris dans un bouquin que j'aime bien, qui a été édité par le CRDP de Créteil, et qui a consisté à demander à des enseignants de nombreuses générations de raconter leur entrée dans le métier. J'ai choisi là un extrait, bon, peut-être un peu atypique, mais peut-être pas tant que ça, Janine Rovet, qui a fait son stage d'agrégation en 1967, et qui dit ceci. « Entre mes rentrées d'élèves et mes rentrées de professeurs, c'est la même continuité qui l'emporte. Aucune première classe ne se détache. Mes débuts ne firent pas événement dans ma vie comme ils l'auraient dû. Enseigner, c'était plus une logique qu'un choix. Élève heureuse, je vivais dans un tissu solide d'équivalence. Le savoir était le pouvoir, garantie d'égalité, tout le monde y avait accès, et d'une démocratie éclairée par l'étude. Les plus travailleurs, les plus acharnés iraient le plus loin. Ils écriraient comme Jules Verne, Camus, Sartre, ou bien comme Voltaire ou Zola, car écrire faisait se rencontrer justice et raison, style et savoir, république et révolution. » Bon, évidemment, on est en 1967, et donc on peut imaginer que certains sont déjà prêts pour certains grands soirs, en tout cas certaines grandes soirées. Mais je crois en effet que cette espèce de logique bien réglée qui faisait que les enseignants passaient du monde relativement feutré de leurs études à celui d'élèves qui leur ressemblaient comme eux-mêmes quand ils sont entrés dans l'enseignement est une période qui n'y a jamais révolu, sauf peut-être dans quelques grands établissements et encore. Et qu'il y a là un objet presque muséifié hein, qu'il convient de regarder pour se dire qu'il ne faut certainement pas fantasmer sur cette époque-là parce que, encore une fois, elle est révolue. Et le type de formation qu'avaient les enseignants était très certainement tout à fait adapté à cette époque-là parce qu'il suffisait en effet d'être formé soi-même, Jules Verne, Camus, Sartre, Voltaire ou Zola, de manière à pouvoir établir cette série d'équivalences.
Donc ça tranche avec le témoignage suivant.
Alors ça tranche avec le témoignage suivant de notre ami Anaïs, hein, certifié mathématique dans un dispositif d'éducation prioritaire, je crois qu'il a disparu aujourd'hui, mais qui était un dispositif assez musclé. J'ai appris que j'étais ici vers le 15-20 juin, bon ça c'est classique éducation nationale, rien de particulier. Dans l'heure qui a suivi, j'ai appelé parce que j'étais un peu paniqué d'être là. Donc j'ai appelé, et je pense que j'ai eu la dame qui est dans la loge, qui m'a complètement paniqué en me disant « ma pauvre ». Qu'est-ce que vous venez faire là? C'est une catastrophe, il y a le feu dans la cité. Ça brûlait en face justement à ce moment-là, donc le premier contact a été terrible. Alors évidemment, il n'y a pas le feu dans toutes les cités de tous les collèges d'éducation prioritaire, mais quand on a collecté quelques dizaines de témoignages d'enseignants débutants dans ces zones-là, on voit bien la difficulté des débuts, hein, la difficulté, comme le disait un de mes étudiants qui a fait son mémoire là-dessus, de faire le tour du bureau. De passer d'une identité à l'autre avec des élèves qui n'ont pas l'appétence au savoir supposé, alors surtout quand on est au niveau du collège, parce que là aussi il faudrait graduer un petit peu les
oui, du coup, de cette inquiétude initiale, sans doute peut-être une tentation d'un certain nombre d'enseignants à confondre le maintien de l'ordre et l'engagement au travail, à surinvestir les dimensions disciplinaires, c'est ce fameux « pas un sourire avant Noël ».
Oui, c'est ça, on a une dissociation chez les jeunes enseignants de ce qui relève de l'ordre du comportement à ce qui relève de l'ordre de l'apprentissage. Le film hein, qui a poussé la métaphore à son paroxysme, pour moi c'est la journée de la jupe, c'est-à-dire cette enseignante qui est confrontée à des situations difficiles, qui sait parfaitement de quoi elle doit parler, qui n'a pas de problème académique particulier au niveau de ses connaissances, illustre, matérialise le fantasme de pouvoir faire cours à une classe qu'on tient en respect. Il faudrait que les élèves puissent respecter les choses. Et une fois qu'on a un revolver à la main, on peut leur dire des choses très savantes sur l'époque de Molière, etc., etc. Donc évidemment, c'est une métaphore, mais on voit bien le côté grinçant de la chose. Et beaucoup de jeunes enseignants aimeraient que ils soient davantage encadrés par l'administration, notamment, qui reproche souvent du laxisme. Ils aimeraient qu'il y ait une échelle visible pour tous, connue de tous, des sanctions à mettre en rapport avec les fautes, voilà, qui serait quelque chose de, comme la forme scolaire, placée au-dessus de tout le monde, et qui ferait que les élèves la connaîtraient et ne pourraient pas se plaindre lorsqu'elle arrête appliquée. On sait à l'époque où les étudiants en formation faisaient des mémoires professionnelles que plus de 80% des mémoires étaient centrées sur l'enseignant et jamais sur les élèves. Bon. Il y a là un effet normal de débutant, je dirais, qui est qu'on a l'obsession d'avoir la bonne séquence didactique qu'il faut pour bien faire les choses comme on les a apprises. Hein. Il y a un surmoi intellectuel tout à fait légitime et important. Le problème, c'est qu'en contexte, la séquence didactique, elle ne se fait jamais comme on l'avait imaginé, que des détails apparemment insignifiants vont parasiter la séance. Hein. Élèves qui n'enlèvent pas leur manteau, leurs gants, voire leurs écouteurs, etc. Et les enseignants sont totalement désarmés parce que le timing est mis à mal, ils ont du mal à assouplir, à rebondir. Et dans les cas les pires, ils vont se durcir dans des attitudes par lesquelles ils attendent que les élèves se comportent bien avant de pouvoir commencer à leur apprendre quelque chose. Et là, ça peut durer très longtemps.
Là où le travail que vous avez réalisé, notamment en allant filmer dans les classes, ou le travail qui a été fait autour de Néopass, fait que voilà, ce dilemme entre commencer à faire cours pour pouvoir enrôler les élèves, on voit qu'il n'est pas naturellement résolu sans qu'il y ait un accompagnement et absolument un travail professionnel dans l'établissement ou en proximité.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est rassurant d'un côté, c'est son caractère typique, parce que tellement de jeunes enseignants se trouvent dans ces situations qu'une fois qu'on leur dit, ça les soulage, parce qu'ils sont souvent convaincus, malheureusement, qu'ils ne sont pas bons, voire qu'ils se sont trompés de métier, et que du coup, la tension entre les deux identités dont on parlait tout à l'heure est à son paroxysme. Avec Lucria, et vous le voyez derrière moi, nous avons essayé de fabriquer une notion qui est la notion de passage à risque, qui nous est venue à force de visionner des séquences, d'interviewer des jeunes enseignants, parce que cette forme scolaire, qui est la forme de l'école en général, je dirais depuis les Sumériens, hein, il y a une manière de faire école dans des lieux dédiés, avec des personnels spécifiques, avec des règles particulières, ça peut être soit sur des tablettes numériques, soit sur des tablettes d'argile, il y a quelques milliers d'années, mais c'est caractéristique de l'école. Néanmoins, il y a des formes historiques de l'école, et nous sommes encore dans cette variante de la forme scolaire qu'on appelle souvent forme scolaire républicaine, hein, avec des caractéristiques en France qui a notamment bien distingué le monde scolaire et le monde non scolaire. C'est pas pareil dans tous les pays, etc. Et une des difficultés, la difficulté d'ailleurs majeure pour les enseignants, c'est de faire en sorte que cette forme scolaire soit installée pour les élèves, et en particulier évidemment dans les milieux difficiles. Et le problème, c'est que ça ne va plus de soi. Les vieilles recettes qui se donnaient, comme moi-même à l'époque où j'ai fait mon CPR, hein, Centre Pédagogique Régional, voilà, il y avait des recettes extrêmement simples. Effectivement, vous ne rigolez pas au mois de septembre, vous commencez à vous relâcher un petit peu à Noël, et après vous verrez, ça sera gagné, vous mettez une cravate, etc. Ça partait de l'idée que il y avait des rituels, et c'est normal, les institutions ont des rituels, qu'on pouvait les installer, et qu'à partir de là, les choses allaient tenir toutes seules. Le problème des situations scolaires actuelles, c'est qu'elles ne sont jamais acquises, et qu'y compris les enseignants dits chevronnés doivent enrôler et réenrôler en permanence leurs élèves. Les chevronnés le font avec une grande économie de moyens. Si on étudie un geste, un regard, des conventions, des connivences qui ont été passées avec des élèves, ils réussissent à se préserver sur la durée et à installer et à faire tenir les situations scolaires. Mais plus on est dans le spectaculaire, les élèves se plaignent souvent d'être ensevelis sous des avalanches verbales, sous des consignes innombrables de la part des enseignants. Ces consignes perdent toute leur substance au fur et à mesure qu'elles sont répétées. À satiété, voilà. Donc il y a des choses que nous appelons des passages à risque, qui sont les moments où la forme scolaire risque de déraper parce qu'on passe d'une activité à l'autre, par exemple, voilà. Soit parce que les élèves passent du monde de la cour au monde de la classe, hein, ils rigolaient avec leurs copains il y a quelques minutes, ils étaient dans des défis, etc., etc., et il faut désormais se comporter autrement. Il parlait français, il faut parler anglais. L'enseignant est obligé de faire l'appel, il baisse les yeux. Et donc, que font les élèves pendant ce temps-là? Est-ce que c'est à eux d'occuper la scène? Et souvent, ils ne s'en privent pas, etc., etc. Il y a ces moments que nous étiquetons comme passage à risque et qui doivent être, selon nous, identifiés pour pouvoir être apprivoisés, je dirais, et pour lesquels nous pensons, sans parler de recettes, mais qu'il y a des manières de les problématiser, de les approcher.